Vous êtes sur RTL.
10h30.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Pro.
Bonjour à tous, 12h30, 14h30, 2h d'infos, de débat, mais aussi d'opinion avec les auditeurs. Bonjour Amandine, tous les
bonjour
jours
Pascal.
L'info, c'est avec vous jusqu'à 13h.
Et bonjour à tous, à la une, l'hommage à Samuel Paty, Xavier Bertrand, qui finalement reprend sa carte à LR. Et puis, un autre retour dans un autre genre, celui de Stromae.
Et à 12h40, la livraison de drogue à domicile, c'est assez incroyable. Nouvel outil des dealers pour échapper aux forces de l'ordre. Et à 12h50, je ne sais pas si vous avez joué à l'euro million, 220 millions à gagner ce soir, c'est colossal. Peut-être trop, on en parlera.
C'est d'ailleurs notre question du jour. Hein. Est-ce que proposer une telle somme, est-ce moral ? Eh bien, vous dites non à 62%. La météo, c'est avec vous.
Sauf si vous gagnez, bien évidemment.
Bah oui, ça c'est...
Dans ces cas-là, vous ne le redonnez pas, j'imagine.
Bah, oui, ou alors peut-être. Bon, après tout.
Ah, vous pensez que si vous gagnez 220 millions, vous redonnez
pas moi, mais bon.
Bon.
Valérie Quintin, bonjour. Vous faites
bonjour.
Quoi ? Vous les gardez, les 220 millions ?
Il y a des chances que je commence par les garder. Après, je distribue sans doute.
Ah bon. Oui, mais si vous distribuez, c'est que vous le dites. Et peut-être ne faut-il pas le dire.
Et oui, bon, on verra ça tout à l'heure à 12h50 pour l'heure. La météo, et c'est du beau temps. Voilà,
toujours. On pourra distribuer au soleil en tout cas, excepté sur l'extrême nord. On a pas mal de nuages à l'heure qu'il est sur le département du Nord. Quelques petites averses très localisées sur le Pas-de-Calais également. Ça va se lever dans le courant de l'après-midi. Place au soleil, un soleil très généreux sur tout le territoire avec des températures un petit peu fraîches dans le Grand Est. 14 degrés seulement à Langres cet après-midi, mais 17 à Rouen et à Bourges. 18 degrés au Mans, à Paris, à Clermont-Ferrand et 20 degrés à Bordeaux et Marseille.
Merci Valérie, à tout à l'heure.
RTL Midi.
Mais pour commencer ce journal, on vous emmène dans l'Hérault et on en sait plus ce midi sur cet homme soupçonné d'avoir assassiné et décapité hier une femme à Agde. Patrick Tégéraud, bonjour, vous êtes sur place pour RTL. Il s'agit d'un ancien boxeur qui a été candidat au municipal de 2015, candidat pour le Front National.
Oui, c'était en février 2015 pour l'élection municipale partielle d'Aumont, dans les Hauts-de-France. Il avait obtenu 5,36% des suffrages. Auparavant, il avait fait une carrière de boxeur en tant que poids welter, une quarantaine de combats, 17 victoires, 19 défaites. Et ensuite, il avait toujours travaillé dans le milieu de la boxe en tant que coach, en particulier à Agde, où il travaillait pour un club de boxe. Comment a-t-il rencontré sa victime ? On ne le sait pas trop. Un des proches voisins me racontait ce matin que ce personnage avait été aperçu, mais il y a déjà plusieurs mois, qu'il était venu en effet régulièrement donner des coups de main, bricoler dans cette maison pour aider cette personne récemment veuve, mais que l'on ne l'avait plus vu depuis quelques mois. Là, je me trouve actuellement au voisinage, au plus proche de la maison de ce présumé innocent pour l'instant, mais bon, il y a beaucoup de charges qui pèsent contre lui. Une voisine me confiait que ce monsieur lui faisait peur régulièrement. Son regard bleu était tout à fait déchirant, et même s'il n'était pas de très haute taille, il était chauve et il était très très impressionnant. On raconte aussi dans le quartier qu'il n'avait pas hésité à sortir une batte de baseball pour essayer de calmer des enfants qui faisaient un petit peu de bruit. Pour l'instant, il est détenu et entendu par la police judiciaire à Montpellier et il ne tente pour l'instant de ne pas, il n'arrive toujours pas pour l'instant à expliquer les raisons de son crime affreux, rappelant que la victime a été retrouvée lardée de coups de couteau et que sa tête était posée sur la table de la cuisine.
Patrick Tégéraud en direct d'Agde dans l'Hérault pour RTL. Ce drame intervient alors qu'est rendu aujourd'hui un premier hommage à Samuel Paty, hommage des écoles, collèges et lycées. Les professeurs sont invités à saluer la mémoire de ce professeur. Minute de silence, débat autour de la liberté d'expression ou encore diffusion d'un documentaire. Le ministère a laissé à chacun le soin de choisir. Valentin Boisset, vous êtes-vous au collège Anatole France à Montataire, c'est près de Creil dans l'Oise, et vous avez suivi ce matin une classe de 6e.
Oui, un hommage en plusieurs temps ici. Alors d'abord, le tournage d'un clip sur la laïcité, puis un temps d'échange avec au tableau la photo projetée de Samuel Paty en noir et blanc. Alors Antonio, par exemple, compte intervenir dans le débat. Il est en 4e, il a une idée, faire entrer cet assassinat dans les manuels d'histoire.
Ça pourrait être dans le prochain livre d'histoire qui va sortir, par exemple. C'est quand même un fait troublant. Ça aurait pu être dans n'importe quel collège, dont le nôtre. Imaginez que son prof se fasse décapiter alors qu'il faisait juste un cours d'histoire. C'est choquant.
On va tous respecter une minute de silence.
Puis une minute de silence donc qui laisse place à une vidéo de Robert Badinter. Il rend hommage au héros de la laïcité, Samuel Paty, avant que les professeurs ne prennent le relais avec une question. Que s'est-il passé l'an dernier ?
Il a fait un cours sur la liberté d'expression, puis il y a eu des rumeurs de la diffamation et ça, malheureusement, qui a donné lieu à l'assassinat de Samuel Paty par un terroriste.
Puis la professeure demande aux élèves comment éviter que cela ne se reproduise. Le ton des professeurs est parfois hésitant, parfois ému. Mélanie et Anthony racontent, des choses ont changé depuis un an dans les classes.
Ça va avoir marqué de manière pérenne la profession d'enseignant. On se questionne plus en tant qu'enseignant sur sa posture éthique et sur la manière d'enseigner la laïcité, ça c'est certain.
Oui, le 11 septembre des enseignants, je sais pas. Mais oui, on se dit quand même que ça aurait pu être moi.
Il faut donc bien préciser enfin que cet hommage n'est pas identique. Partout en France, une liberté est bien laissée aux établissements sur le déroulé.
À Montataire dans l'Oise, le reportage RTL de Valentin Boissé. Des hommages nécessaires. Voilà ce qu'a dit ce matin sur RTL l'avocate de la famille de Samuel Paty, maître Virginie Leroy, qui a en revanche condamné la récupération politique.
La récupération, elle est douloureuse. À titre d'exemple, ils ont très très mal vécu le fait que Éric Zemmour s'octroie l'image de Samuel Paty et de plein d'autres victimes, hein, beaucoup de victimes du Bataclan également, des victimes de terrorisme à des fins suffragistes. Cette campagne hein, qui a eu lieu via Génération Z en juillet a été très très mal vécue. L'exploitation politique de victimes, c'est évidemment d'une indécence folle. C'est un manque de respect et de dignité vis-à-vis de ces familles, et particulièrement de la famille de Samuel, qui est ignoble.
Oui. L'avocate de Samuel Paty, invitée ce matin d'Yves Calvi sur RTL.
La politique est nouveau coup de théâtre à droite.
Et oui, puisque Xavier Bertrand va reprendre sa carte aux Républicains.
Non.
Thomas Desprez. Certains diront qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis.
Oui, on avait laissé un Xavier Bertrand décider mardi devant les sénateurs LR. À ce moment-là, pas question de reprendre sa carte du parti. Mais depuis, l'une de ses principales rivales, Valérie Pécresse, a décidé de la reprendre. Par cohérence, disait-elle hier, il fallait mettre fin très vite au feuilleton, commande ce matin un proche de Xavier Bertrand. Un nouveau mauvais feuilleton. Et puis, il y a cette autre idée, ne pas laisser la présidente de la région Île-de-France apparaître comme la seule capable d'un geste de rassemblement envers les Républicains. Pour Damien Abad, le président du groupe LR à l'Assemblée, qui soutient Xavier Bertrand, ces débats risquaient aussi d'occulter le fond.
Ces débats sur la carte, pas la carte, et de savoir qui l'a eu pendant les 10 dernières années, honnêtement, je pense que c'est un débat qui est un débat d'arrière-coup. L'enjeu aujourd'hui, c'est de parler directement aux militants et aux sympathisants, de les convaincre et de montrer que Xavier Bertrand est le mieux placé et lui seul peut gagner cette élection présidentielle à droite.
L'opération reconquête du président des Hauts-de-France envers les Républicains va se poursuivre. Il sera demain en Normandie pour rencontrer les adhérents.
Thomas Desprez du service politique de RTL. À gauche, Anne Hidalgo a officiellement été investie candidate du Parti Socialiste hier soir. Son seul et unique challenger, Stéphane Le Foll, indique ce matin qu'il ne la soutiendra pas. Et puis Emmanuel Macron présidera lui cet après-midi.
Ce sont déjà pas beaucoup, si vous me permettez, donc...
Emmanuel Macron présidera donc plus cet après-midi l'hommage à Hubert Germain, cérémonie aux Invalides, pour celui qui était le dernier compagnon de la Libération. Le président doit ensuite se rendre à Marseille pour faire le point sur le plan annoncé il y a 5 semaines. Les chiffres de l'inflation à présent, et ça se confirme, les prix continuent d'augmenter, plus 2,2% sur un an au mois de septembre. Ce n'est pas que du ressenti, Martial Lio.
Ben non, c'est la confirmation effectivement de cette inflation très soutenue qu'on est en train de vivre, mais elle est liée aussi à la croissance, très forte de notre économie en même temps. Alors dans le détail, la hausse est très fortement poussée par les prix de l'énergie, ça ne vous surprendra pas, plus 14,9% sur un an, c'est énorme. Heureusement, dans le même temps, les prix des produits alimentaires et notamment les fruits et légumes rebaissent un peu, tout comme les loyers et les services. Alors les fruits et légumes, vous vous souvenez, ils étaient très hauts pendant l'été à cause des épisodes de gel du printemps et puis de pluie pendant cet été. C'est pour ça que le gouvernement réfléchit maintenant à un nouveau geste en faveur du pouvoir d'achat. Une réunion a eu lieu hier soir à Matignon pour évoquer un chèque carbone, une somme distribuée aux travailleurs pauvres ou aux retraités qui sont obligés de prendre la voiture pour se déplacer. Le dispositif n'est pas encore totalement arrêté. C'est Emmanuel Macron qui va trancher et ce sera dans les prochains jours, me dit-on.
Martial Lio, chef du service économie de RTL. Fini les tests de confort gratuits depuis ce matin. Les non-vaccinés doivent débourser entre 22 et 44 euros pour un dépistage Covid. Quelques exceptions, on les rappelle, si on a une ordonnance, si on est officiellement cas contact ou encore si on est mineur. Sachez par ailleurs qu'en Italie, le pass sanitaire est obligatoire pour tous les salariés depuis ce matin. Il faut aussi désormais présenter un pass sanitaire pour aller au restaurant ou au musée à Bruxelles. 2 ans et demi, jour pour jour, après l'incendie de Notre-Dame, RTL a pu accéder exceptionnellement au chantier. Sophie Orange, c'est vous qui êtes allée sur place. Emmanuel Macron avait promis 50 travaux. On est pile à la moitié. Est-ce que l'objectif vous semble tenable ?
Ambitieux, forcément, par rapport à ce que j'ai vu hier, exactement à la même heure. J'étais au 13e étage de l'échafaudage intérieur dans la cathédrale à plus de 30 mètres de hauteur. Quel est l'état du chantier ? La sécurisation est terminée. La restauration à proprement dit va débuter dans les toutes prochaines semaines. Par quoi commencer ? Dans quel ordre ? Un calendrier de plusieurs centaines de pages est en train d'être établi. Plus 135 marchés qui vont être passés avec des petites ou des grandes entreprises, du gros œuvre, des restaurateurs de pierre, des charpentiers. La liste des métiers est très très longue. Les 8000 tuyaux d'orgue viennent d'arriver dans les ateliers où ils seront nettoyés. Ensuite, il faudra les réinstaller, les harmoniser. Ça va prendre 6 mois, la nuit, sur place, en silence. Les chaînes pour la charpente sont en train d'être séchées, d'être sciées. Tout avance en même temps et à la fois le travail est infini. Donc, le 15 avril 2024, tout ne sera pas terminé, mais en 2024, à une date difficile à prévoir, la cathédrale sera rendue au culte, aux visites, au moins pour une partie de l'édifice. On aura du mal à la reconnaître. Tout va être rénové, en fait, c'est ça qu'il faut comprendre, y compris les parties non abîmées par l'incendie. Notre-Dame va retrouver une splendeur, une lumière qu'on n'aura sans doute jamais vue.
Et on continuera bien sûr à suivre l'avancée de ces travaux avec vous sur RTL. Merci Sophie. Et puis c'est leçon du jour.
Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas.
Stromae.
On reconnaît le style.
Bah oui, Santé, le nouveau single donc de Stromae. 8 ans qu'on l'attendait. Stephen Bellery, qu'est-ce qu'il a fait pendant toutes ces années ?
Ah bah en tout cas, ça signe sa renaissance, cette chanson. Puisqu'il y a 8 ans, on s'en souvient, Stromae secouait la chanson. Succès stratosphérique, hein, 2 millions d'albums vendus en France, plus de 220 concerts de New York au Rwanda. Et la chute, une mauvaise réaction à un traitement préventif contre le paludisme, la sacrément diminué. Puis un burn-out, sa célébrité hors norme l'a bousculé. Le Belge a eu besoin de se retrouver, de redevenir un anonyme qui fait de la musique dans son grenier. Dans l'ombre, il a ainsi réalisé des clips, composé une chanson pour Big Flo et Oli, retour progressif dans la lumière avec deux duos, avec le rappeur Orelsan, puis le groupe Coldplay. Stromae s'est également recentré sur sa famille. Il s'est marié fin 2015 avec une styliste. Ils ont eu un petit garçon qui vient d'avoir 3 ans. Une longue pause qui a permis à l'artiste de 36 ans de retrouver l'inspiration, non pas pour se réinventer, hein, sa nouvelle chanson en est l'exemple. Stromae reste fidèle à ses sonorités, à ses valeurs, en signant un texte sur les invisibles du quotidien. Lui ne va plus le rester très longtemps.
Merci beaucoup Steven. Et hasard du calendrier, l'autre retour du jour, c'est ça, Easy On Me, premier single de l'album, du prochain album d'Adèle qui doit sortir le 19 novembre.
Énorme retour à l'international, son dernier disque s'est juste vendu à 22 millions d'exemplaires, c'est quelque chose d'assez rare aujourd'hui.
Juste ça.
Et quelle voix.
Dans quelques secondes, deux débats comme tous les jours. La livraison de drogue à domicile, ça pourrait faire sourire et ce n'est pas drôle du tout. Nouvel outil des dealers pour échapper aux forces de l'ordre. Et puis l'Euromillion, je ne sais pas si Amandine,
moi j'ai
si
pas encore
Steven,
fait, mais je vais y aller.
Jouez,
juste après.
Si vous jouez, Sophie,
faut que j'y aille. Moi, je joue plutôt l'auto du patrimoine.
220 millions d'euros. Qu'est-ce que vous feriez ?
Bah, je reviens pas lundi.
Mais vous avez, c'est drôle cette question.
Et vous savez combien ça rapporte, 220 millions d'euros ? Vous placez ça à 3%. Oui. Sans rien toucher, oui. 550 000 euros par mois.
Vous avez bossé le sujet, Amandine.
Ah bah oui,
mais chacun se demande ce qu'il ferait. Quelques... Mais est-ce que c'est moral également de permettre
de gagner
quelqu'un...
et donner après un petit peu
bah oui. Des bonnes
mais on peut surtout investir. Vous qui aimez la musique, vous produiriez peut-être un disque. Je pense que vous feriez ça. On peut pas s'arrêter de travailler. Vous iriez pas
au soleil.
On
est indépendant, on aide, on a
voilà.
Des coups de cœur.
Vous achèteriez RTL. 12h43, tout de suite.
RTL. RTL Midi avec Amandine Bégaud et Pascal Praud.
Dans 5 minutes, même pas 5 minutes, tu peux être à Londres. Allez, ça va, super, vas-y, ok, on fait comme ça.
Cet homme qu'on vient d'entendre n'est pas un livreur de pizza, de sushi ou de tout autre plat emporté, mais bien un livreur de drogue. C'est le moyen qu'ont désormais trouvé les dealers à Marseille pour travailler sans être gênés par les descentes de police. Reportage édifiant signé Hugo Hamelin, extrait.
Surprise, notre livreur n'est pas en scooter, il n'a pas 20 ans mais plutôt 50, au volant d'une camionnette d'artisan tout à fait insoupçonnable, un ouvrier de la start-up du deal.
Là en ce moment on prend voilà, les risques, parce qu'ils ont arrêté de coller à Gano il y a quelques semaines, et à la fin du mois j'ai ma paye, et ma paye elle me pousse à faire ça, t'as vu, c'est dommage mais bon.
Tu travailles à côté ?
Je suis intérimaire, ouais. Ça fait 14 ans que je suis intérimaire, j'ai jamais mis 100 euros de côté. Demain je meurs, mes deux filles n'auront même pas un euro. le côté.
Phénomène accentué par les confinements et les opérations de police qui perturbent les points de vente traditionnels, la livraison de stupéfiants à domicile pourrait doubler, voire tripler dans les années à venir, selon un officier de la brigade des stupéfiants.
Bonjour Grégory Joron. Vous êtes secrétaire général du syndicat de police Unité SGP Police FO. Merci d'être en direct avec nous sur RTL. Est-ce que vous êtes surpris par ces livraisons de drogue à domicile? Là, on était à Marseille. Ou est-ce que c'est un phénomène qu'on rencontre désormais dans beaucoup d'endroits?
Non, c'est un phénomène malheureusement qu'on rencontre dans beaucoup d'endroits, mais pas vraiment non plus, puisque tout simplement c'est, vous savez, voilà, le trafic de drogue c'est avant tout un business. Les réseaux s'adaptent très vite aux problématiques qu'ils rencontrent et d'ailleurs aux freins qu'on peut leur mettre au niveau des actions de police. Et ce nouveau mode de livraison à domicile, c'est juste l'expression de cette capacité d'adaptation qui pose réellement problème. C'est une réalité qui vient, vous l'avez dit en début de reportage, du premier confinement. Ça aussi, c'est une réalité et qui se développe puisque finalement, de l'autre côté, au niveau des consommateurs, il y a une espèce de sécurité apportée par ce mode de livraison.
Ben justement, les consommateurs, un jour, il va bien falloir penser à peut-être punir plus sévèrement les consommateurs.
Moi, je pense qu'il faut surtout penser à refaire des procédures de qualité et faire peut-être un peu moins de chiffres, parce que si vous parlez avec les collègues des brigades de stupéfiants, malheureusement, c'est ce qu'ils vous disent. Ils préféraient avoir des objectifs sur des gros points de deal ou des grosses structures de deal, faire un travail sur le temps long et pouvoir justement à un moment taper et exploser l'ensemble du réseau. Sauf que ça demande beaucoup de temps, ça demande énormément d'énergie, ça demande beaucoup de fonctionnaires, et finalement, c'est un peu moins visible que de faire des petits points de bille réguliers, mais qui malheureusement retrouvent tout de suite preneur, ou en tout cas retrouvent tout de suite quelqu'un pour les diriger. C'est surtout ça.
Parce qu'on vous demande
après,
de faire du chiffre en la matière aujourd'hui.
Oui.
Oui, c'est ça.
Oui, bien sûr. Oui, on nous demande de faire du chiffre. Et honnêtement, je pense que ce qu'il faut déjà casser, c'est cette espèce de sentiment d'impunité que peuvent avoir les dealers d'un niveau déjà certain, puisque finalement, on ne va pas les chercher. On s'arrête souvent avant sur ceux qui sont au chouf, ou ce qu'ils appellent, mes collègues appellent les charbonneurs, ceux qui vont livrer, etc., sans aller vraiment plus haut sur les têtes de réseau, ou trop rarement, parce que finalement, on donne moins le temps à mes collègues d'avoir ce genre d'enquête.
Je rappelle que les peines pénales envers les simples consommateurs de drogue restent moins sévères qu'envers les trafiquants. La possession de drogue est passible d'une peine allant jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et une amende de 7 500 000 euros.
Merci en tout cas Grégory Joron d'avoir été en direct avec nous. Je rappelle, vous êtes secrétaire général du syndicat de police Unité SGP Police FO.
Je crois que c'est la troisième fois que ce jackpot de 220 millions d'euros est proposé. Il n'a pas trouvé preneur. Non, que personne ne le veuille, mais le hasard en a décidé autrement. Donc on va parler dans une seconde de ces 220 millions d'euros mis en jeu par la Française des Jeux, précisément.
RTL Midi Sucré. RTL Midi, avec Amandine Bégaud et Pascal Praud.
Évidemment, j'ai joué 4 grilles aujourd'hui. Et qu'est-ce que je ferais? Mais il y a tellement de choses à faire. Déjà, j'ai distribué un petit peu. Je partirais peut-être faire un petit tour du monde. Changer de mari, peut-être pas.
D'abord la maison, ensuite la voiture, après la maison pour maman. Et puis le reste, c'est l'argent de poche, quoi.
Ce que je ferai en premier, ce sera aider justement une association, et les sans-abri, les gens sans travail.
Vaut mieux que ce soit lui qui gagne que moi, parce que moi, je fais profiter que ma maman et ma femme, quoi.
Et vous, que feriez-vous avec 220 millions d'euros? On vient d'entendre, les idées ne manquent pas. Et ce qui est sûr, c'est que la somme mise en jeu ce soir à l'euro million en fait rêver plus d'un. Bonjour Jean-Claude Boulet.
Bonjour.
Vous êtes psychanalyste, sémiologue, et vous avez travaillé pendant 20 ans avec la Française des Jeux pour rencontrer justement les grands gagnants de jackpot, comprendre les mécanismes psychosociologiques. Déjà, 220 millions d'euros, on l'a dit, la somme elle est colossale. Est-ce que pour vous, le spécialiste, c'est trop?
Ah ben c'est exponentiel, là. C'est vraiment, on touche l'infini, là, pratiquement. Parce que moi, j'ai vu des gens qui avaient déjà 13 millions, ils ne dormaient pas. Mmh. Imaginez, 220.
Il y a de quoi péter les plombs, comme on dit, ou pas?
Ah, complètement. Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a au départ un sentiment vraiment de stupeur, vous voyez? C'est que c'est comme une effraction du réel, direct. Mais brut, un événement brut, qui est sans pourquoi, qui arrive d'un seul coup. Et s'il n'a pas l'explication, vous voyez ce que je veux dire? C'est presque gratuit, entre guillemets. Ça tombe sur vous.
Monsieur Boulet-Bras, j'ai une question très simple à vous poser. Vous êtes psychanalyste. Il y a une probabilité sur 139 millions que je gagne à l'euro million. Malgré cela, j'ai joué. Je voudrais savoir pourquoi. Pourquoi j'ai joué ?
Ça fait rêver,
parce que
c'est pour ça,
pendant 8 heures, je me dis que je peux gagner.
Oui, exactement. Il y a un temps de latence. C'est un peu comme la pêche au gros. Hein. C'est pas du tout comme le tirage, hein, qui est la pêche au petit. Hein. Là, c'est vraiment la pêche au gros. En plus, on met ses numéros. On met des numéros, en tout cas. Donc, on s'implique qu'il y a quelque chose d'intime entre soi et soi-même. Et si mes numéros, si j'étais reconnu par le destin, vous voyez ce que je veux dire ? Pas seulement par les parents, par le métier, par les copains. C'est une reconnaissance, entre guillemets, divine. Disons que c'est le hasard, quoi. Le hasard, on peut dire que c'est divin, quand ça vous tombe dessus, vous voyez ?
Mais alors, quand ça nous tombe dessus, imaginons, il faut le dire aux autres ou pas ?
On ne peut pas ne pas le dire. Ah. C'est impossible. Parce que, en fait, il y a un moment de stupeur. Alors, ça, c'est donc le monde. Enfin, c'est le monde. C'est le réel qui vous saute à la figure. Mais vraiment, hein. Lacan disait, le réel, c'est un coup de poing dans la figure. Ben, c'est un peu ça. Après, donc, en fait, c'est une modification de soi. Tout d'un coup, on devient comme un sentiment océanique. Vous voyez ce que je veux dire ? On devient illimité.
J'ai du mal. Un sentiment océanique, j'ai du mal à savoir. C'est un tsunami.
Ben, oui, on est un sentiment océanique. C'est pas moi, c'est Romain Gary hein, qui avait parlé de ça. Et ça a été repris par Freud. C'est que tout d'un coup, on a l'impression de faire l'un. Il y a un côté un peu universel. Mm. Vous voyez ce que je veux dire ? Le moi déborde, il dégouline. Ou alors, si on prend l'image du volcan, si vous voulez, c'est la lave qui est obligée de descendre dans la vallée.
Mais alors, vous,
d'en parler. Dans c'est tous un les cri, quoi.
Pardonnez-moi.
S'en débarrasser en même temps.
Dans tous les grands gagnants que vous avez suivis, quand on vous entend comme ça, on se dit ça a l'air de mal se terminer.
Non, il ne faut pas exagérer, mais disons qu'il y a un moment de stupeur qu'il faut digérer. Bah, imaginons, bibliquement, c'est le buisson ardent, quoi. Mmh. Vous voyez, stupeur et tremblement. Mmh. On dit, c'est pas possible, il y a une déréalisation. Vous voyez ce que je veux dire ? Pourquoi moi, etc.
Bon. Et 5 ans plus tard, les gens qui ont gagné, ils sont dans quel état ?
Bah, ils sont souvent un peu suivis, on les met avec d'autres gens qui ont gagné. Enfin, il y a une cellule, vous voyez ce que je veux dire ? Parce que
c'est un parc d'attractions. Pas... on les met ensemble, bon, on peut aller les voir. Non, mais ils vont bien ? Ils vont mieux quand même, rassurez-moi, parce qu'on a l'impression que c'est un drame de gagner 220 millions d'euros.
Non, pas du tout, parce qu'après, il y a une troisième partie, après ce sentiment dit océanique, si vous voulez, c'est qu'il faut une canalisation. Mm. Il faut canaliser, il faut expulser ça, il faut se le réapproprier. Donc on le crie, on le communique, on dit aux autres, on ne peut pas taire une chose pareille, et c'est un peu la théorie du ruissellement qui arrive après, vous voyez, responsabilité vis-à-vis des autres, éventuellement, hein, évidemment, et puis responsabilité aussi vis-à-vis éventuellement du monde. Il y a des gens, par exemple, qui ont canalisé ça en aidant des gens à monter des boîtes, en s'investissant dans des projets, par exemple écologiques, ou des...
Vous avez en mémoire des grands gagnants avec une anecdote particulière, vous qui les avez suivis pour certains ?
Là, ce que je vous dis, c'est intéressant. C'est le cas de la canalisation de quelqu'un qui a dit « Je ne peux pas garder tout ça pour moi, je suis obligé de leur distribuer. » Il en a gardé toute petite partie pour lui, et puis la grande partie, il l'a donnée aux autres.
C'est la meilleure chose à faire, ça ?
Ah, j'ai l'impression que M. Boulet est parti peut-être jouer ses numéros.
Mais c'est la meilleure chose à faire, ça, en garder juste une toute petite partie pour aller bien.
Oui, garder une partie, et puis en même temps, il y a un principe de responsabilité. De toute façon, on ne peut pas garder une somme pareille pour soi tout seul.
Oui, c'est ça que... Là, vous m'étonnez qu'on le dise, évidemment, à son épouse, peut-être à ses enfants, et je ne suis même pas sûr qu'il faille le dire.
Mais c'est dur de le cacher, quand
même, 220 millions. Oui, je ne suis pas sûr qu'il faille le dire,
non. Moi, je pense qu'il ne faut pas le dire. Je pense qu'il faut le dire, évidemment, à sa compagne ou son compagnon, mais je ne suis pas sûr, après, qu'il faille le dire, même ou à ses parents, même ou à ses enfants.
Ni même au quartier, etc. Tout
oui, ça, je... Alors, on peut donner à ses enfants, on peut donner à ses enfants, bien sûr. Alors, ouais. Comment leur donner sans leur dire qu'on a gagné beaucoup d'argent ? C'est vrai que c'est une problématique, c'est pas simple.
Et en plus, n'oubliez pas qu'il y a un sentiment interne de modification immédiate.
En tout cas, moi, je ne l'ai pas dit quand j'ai gagné 210 millions d'euros la dernière fois. J'ai préféré que les gens pensent que j'étais toujours... normal.
Oui, c'est normal. Non, mais bon. On ne peut pas le garder pour soi, c'est évident. Il y a un trop-plein, si vous voulez.
Bon, bah écoutez, c'est bien.
Vous prenez un espèce de héros immédiatement.
Monsieur Boulet, est-ce que vous jouez ?
Bien sûr, je joue. Bah oui, on ne peut pas travailler pour un produit sans le tester. Hein.
Ah ouais, donc vous, par exemple, ce soir, vous allez jouer ?
Bah oui, du coup, je vais jouer, oui.
Et vous jouez en flash ou vous jouez avec vos numéros ?
Alors, j'ai essayé les deux méthodes, cher ami. Et les deux méthodes n'ont pas été très concluantes, visiblement. Mais il y a plus d'implications... si vous voulez, quand on pense des numéros, date de naissance, etc., on a l'impression qu'on met quelque chose de soi.
Je suis d'accord avec vous. Et pourquoi on a un peu honte de jouer ? Un ticket d'euro million, c'est pas très chic.
Ah, vous avez honte, vous ?
Ah oui, les gens se disent, voilà, c'est pas... vous nous déculpabilisez un peu, monsieur le psychanalyste, parce que si vous...
Bien sûr, de toute façon, tout le monde cherche éventuellement son jour de gloire. Hein. Il n'y a pas de honte, hein. Le quart d'heure de Jean-Louis Warhol, ou je sais pas, vous voyez.
Bon, bah écoutez, merci. Et rendez-vous lundi, peut-être.
Bah, peut-être lundi. Si je gagne, je vous rappellerai.
Ah, bah écoutez, c'est gentil. Je préférerais que vous nous donniez de l'argent plutôt que vous me rappeliez, mais oui. C'est déjà bien de nous rappeler.
Oui, c'est déjà pas mal de vous rappeler. Voilà, ça sera un début, disons.
Il est quasiment 13h. Merci, monsieur Boulet. Merci beaucoup.
Au revoir.
Au 32-10, RTL vous donne la parole. 50 centimes.